Merci à l'équipe de louange. Merci. Bonjour, Église Le Sentier. J'espère que vous passez un bel été jusqu'à maintenant. C'est presque fini. Eh oui. Alors, mon nom est Sylvain Plouffe et je suis un des pasteurs ici à l'Église Le Sentier. Je suis content de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue, que vous soyez ici en salle, en visite ou à travers la toile. Bonjour à Maniwaki ce matin, je sais qu'il nous écoute en ligne. Je vais être avec vous autres la semaine prochaine, Maniwaki. Alors, c'est ça, ce que je souhaite. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère qu'il n'y a pas personne qui s'exclut, là. J'ai dit bonjour à tout le monde. Alors, c'est ça. Je vais passer un peu de temps avec vous ce matin. Puis, on va essayer de rester dans les temps qui me sont permis pour ne pas vous garder ici, malgré qu'il pleut dehors. Pff. Pas pressé à matin, là. C'est pas comme quand il faisait beau dans les derniers dimanches. Où est-ce que... Voilà. On démarre ça comme ça. Je vais finir par m'installer. C'est comme un petit peu plus long, là, la technologie. Je fais sûr de tout mettre en place. Et je suis heureux de faire partie de cette assemblée vivante pour notre grand Dieu et notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. À lui soit le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Il y a tellement de perspectives pour parler des promesses de Dieu. Et ce matin, on va aborder encore une fois les promesses de Dieu. Puis le thème qui nous a été donné cette année, qui sont les promesses de Dieu, à tour de rôle, je fais partie de cette équipe qui veut vous parler des promesses de Dieu. Et je me suis préparé, j'ai écouté les messages en prévision de ce matin. Essayez pas trop répéter, pas être trop redondant avec ce que mes frères qui vous ont prêché sur la promesse de Dieu vous parlent. Mais c'est difficile parce que ça se croit. C'est vraiment intéressant de voir que c'est vaste, les promesses de Dieu. Puis qu'il s'agit d'un thème très large puisqu'il a alimenté nos discours pour tout l'été. Alors, ça me fait penser un petit peu à la rédaction des Écritures. Hein? Plus de 40 auteurs ou proches. Et chacun, avec ses couleurs, avec son arrière-plan, s'assoit, puis par l'inspiration de Dieu, écrit les Écritures. Bien, cet été, il y a eu 7-8 prédicateurs qui sont passés pour vous parler d'un thème. Puis, ils se sont assis aussi, puis ont essayé de sonder les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu avait à dire sur ce thème-là. Puis, on était bénis. Dieu nous a remplis de sa sagesse, je pense, pour nous diriger dans ses Écritures. Tout au long des Écritures, Dieu n'a pas peur de prendre des engagements avec son peuple. Parfois sous forme d'alliance, mais aussi sous forme de promesses. On a vu ensemble, au fil des discours, que Dieu est fidèle et qu'il n'est pas un homme pour manquer à ses promesses. Après tout, moi-même, je ne suis qu'une vapeur qui va disparaître. Puis j'ai commencé déjà à m'évanouir peu à peu. Dieu est éternel. Qui est ce Dieu qui, comme décrit dans Hébreux chapitre 6, on devrait l'avoir ici, mais si vous avez vos Bibles, c'est encore mieux. Voilà. Hébreux chapitre 6, qu'est-ce que ça donne, ça? Comme... Ah, ben, c'est bon. Versets 13 à 20. Puis on va prendre le temps de le lire ensemble parce que je trouve que c'est tellement riche, tu sais. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même. En disant, « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Vous savez, quand on va en cours puis qu'on met la main sur la Bible, on jure par plus grand que nous. Eh bien, malgré le fait que pour une multitude de personnes, ça n'a plus trop de signification, ce geste-là. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on prend en considération ou quand on prend en gage les Écritures, on devrait y réfléchir avant de promettre quelque chose. Alors, quand ce geste-là est posé en cours, c'est parce qu'ils veulent s'assurer. Puis comme le dit la Bible, ça dit que le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Ça veut dire que quand on s'engage à dire la vérité en plaçant notre main sur les Écritures, c'est parce qu'on va dire la vérité. C'est parce qu'on ne mentira point. C'est pourquoi Dieu voulait montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Et on se rappelle que, bon, Melchisédek, c'était un homme qui est apparu dans les Écritures comme étant le grand prêtre de Dieu. Et maintenant, Jésus est entré dans le lieu trois fois saint, ce lieu où le sacrificateur juif ne pouvait avoir accès qu'une fois par année, avec tout un protocole de préparation pour le pardon des péchés du peuple. Et nous, on a cet accès maintenant en Jésus-Christ. On est privilégiés, frères et sœurs. On a cette promesse que Jésus a ouvert l'accès. Celui qui est ne ment pas et ne peut pas manquer à sa parole. Mais tout cela, nous en avons parlé précédemment dans les autres discours. Vous savez que les promesses sont nombreuses dans les Écritures. Il y en a pour tous les goûts. On retrouve des promesses dans la Bible pour presque toutes les situations de la vie, offrant conseil, paix, sagesse et espérance. Certains livres les placent en catégorie. J'ai fait le petit travail de demander à Google, parce que Google, il sait tout. Quelle est la plus grande promesse de la Bible? Jésus est l'ultime promesse, car en lui repose notre salut éternel. Voyez-vous, si vous n'avez pas mis votre espérance en Jésus comme étant votre sauveur, comme ayant pris votre place pour être frappé comme justice de Dieu. Si vous n'avez pas fait cet engagement-là avec Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas mis au centre de votre vie, bien, les promesses, ce n'est pas pour vous. Pas encore. J'espère que Dieu, par son esprit, va travailler vos cœurs puis qu'il va vous amener parce que Christ est la clé qui déborde les promesses. Christ est la clé pour avoir accès à toutes les promesses qui sont dans les Écritures. En fait, nos cœurs ne sont pas prêts à croire dans les promesses et à s'engager envers les promesses tant et aussi longtemps que Christ n'a pas envoyé son esprit habiter en nous. Puis ça, ça se fait en plaçant notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité le troisième jour. C'est par lui, avec lui, en lui, que s'accomplit la promesse. En s'écriant sur le bois de justice, « Tétélestai », traduction, que tout est accompli. Ce mot est soigneusement choisi par Dieu, car il est utilisé dans son original grec dans trois domaines. Le premier domaine est celui du monde juridique. La Cour de justice acquittait une personne qui avait purgé sa peine ou qui était acquittée suite à un procès et inscrivait « Tétélestai, tout est accompli ». Soit que cette personne-là avait purgé sa peine et que maintenant, elle n'avait plus de dette envers la société, ou elle avait été acquittée pour faute, probablement, il n'y avait pas assez de preuves pour l'incriminer, ou il était tout simplement innocent. Dans notre cas, cela s'applique à nos crimes, à cette dette qu'on avait contractée envers Dieu, en le rejetant, en lui désobéissant, en manquant d'amour pour le mettre premier dans nos vies. On avait contracté cette dette avec Dieu et Christ l'a payé. Tétélestai. Il a tout accompli pour payer notre dette. En deuxième lieu, ce mot est utilisé en finance. Lorsque quelqu'un s'acquittait d'une dette monétaire, on écrivait sur le contrat de l'époque, Tétélestai. Tout est accompli. Tout a été remboursé. Je ne sais pas si vous avez eu le privilège un jour de rembourser totalement une dette, mais c'est libérateur. Quand on finit de payer une voiture, quand on finit de payer une dette qu'on a contractée envers un ami, c'est libérateur. Et quand cet ami-là nous dégage de notre dette, on est arrivé au bout du contrat, puis là, on n'y doit plus rien. C'est vraiment libérateur. Parce que tant et aussi longtemps qu'on a une dette envers quelqu'un, souvent, quand on rencontre cette personne-là, on voit juste « dette » écrit dans son front. Pourtant, la personne ne fait pas nécessairement allusion à ce qu'on lui doive encore de l'argent ou à ce qu'on ait une dette quelconque envers lui. Mais il y a quand même ce... On a hâte. C'est libérateur. Mais Christ a payé notre dette. Et ça, c'est libérateur. Ça, c'est vraiment libérateur. Alors, vous êtes déjà acquitté de cette dette grâce à Jésus-Christ qui l'a payée. Cette dette que nous avions contractée avec notre Créateur fut remboursée par notre Créateur lui-même en son Fils Jésus-Christ. Cela me rappelle le passage des Écritures où Jésus lui-même dit cette parabole aux disciples. Pierre s'approchant de Jésus dans Matthieu... Oh, je l'ai probablement ici. Il ne faut pas que j'oublie ça. Matthieu, c'est ça. Matthieu 18, versets 21 à 35. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors, il y a une dette qui est contractée envers une personne qu'on a offensée pendant qu'une personne qu'on a blessée. Et ça a le même effet qu'une dette financière. Si j'ai blessé un frère, une sœur, à toutes les fois que je les rencontre, je vois dans son front écrit, tu sais, « Demande-moi pardon » ou « Il y a un malaise, là. Il y a un « Jusqu'à temps » que la personne m'ait acquitté, jusqu'à temps que la personne m'ait remboursé cette dette-là, je ne suis pas capable de venir dans sa présence puis être à l'aise. Alors, ici, le Seigneur Jésus dit, tu vas y remettre sa dette pas juste 7 fois, tu vas y remettre sa dette 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un serviteur qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de rembourser cette dette. Le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant le roi en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Bien, je pense que, premièrement, le serviteur il n'avait pas les moyens de tout lui rembourser. Il s'était incapable de rembourser. Mais le roi, dans sa compassion, lui a remis sa dette. Je suis convaincu que vous connaissez toute cette histoire. Mais quel bel exemple que notre Seigneur Jésus nous enseigne ici, d'un roi qui remet la dette à quelqu'un qui n'est pas capable de payer. Je vous dis que quand je suis arrivé au pied de la croix, en 1994, je n'avais pas les émotions pour dire « je vais être capable de te rembourser ». J'avais plutôt les émotions de dire « Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis perdu. Si tu n'interviens pas dans ma vie, bon, il va falloir que tu vendes tout. Il va falloir que tu juste m'élimines de sur la terre parce que j'ai aucun moyen de te rembourser tout le mal que je t'ai fait en t'abandonnant, en te reniant, en marchant selon mes propres voies sans te considérer. » Heureusement, le Seigneur Jésus a eu pitié de moi. Puis il a fait de moi un de ses frères. Aujourd'hui, si je vis, c'est parce que Jésus a prononcé « Tétalestai ». Alors, on sait que le serviteur, par la suite, il avait une leçon à apprendre, bien plus qu'une leçon à apprendre, il est retourné, puis il n'a pas voulu pardonner à l'autre. Puis c'est ça. Un coup qu'on est entré dans la présence du Seigneur Jésus, il faut maintenant apprendre à vivre comment le Seigneur Jésus veut qu'on vive. Puis là, c'est sûr que il l'a payé cher, là, parce qu'après ça, il a été vendu, puis parce qu'il n'avait pas voulu pardonner une plus petite dette à quelqu'un. Ensuite, en dernier lieu, le mot tétalestai était utilisé dans le monde militaire. Parce que quand on partait en guerre, c'est certain qu'on voulait la victoire, n'est-ce pas? On voulait remporter le combat. Puis, quand les gens, ils venaient à bout de gagner le terrain qu'ils voulaient ou qu'ils exploitaient ou le pays qu'ils voulaient, quand tout était rasé, comme on le voit dans les Écritures, là, quand ils rasaient tout, le bétail, famille, et ils pouvaient s'exclamer que tout avait été détruit, ils disaient « Tétalestai ». Tout est accompli. Tout ce qu'on devait faire pour dominer est accompli. Je pense que quand Jésus a prononcé « Tétalestai », ça avait aussi une signification beaucoup plus grande que ce que je suis capable de comprendre. C'est-à-dire que ça s'adressait d'abord à la mort, il avait vaincu la mort. Mais aussi, Romains 8 nous rappelle que ça a une influence sur toute la création. Parce que la création soupire après le jour où Jésus va revenir et va s'établir finalement. Ce matin, j'aborde avec vous trois façons de vivre dans les promesses de Dieu. La première étant de connaître les promesses. La seconde étant de s'approprier cette promesse. Puis la troisième, c'est de laisser la promesse ou les promesses devenir espérance par la foi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on est courbé devant toi. On vient en toute humilité devant ton trône. On veut se laisser instruire par ta parole. On veut se laisser encourager par ta parole. On sait, Seigneur Jésus, que tu es mort à la croix pour payer pour nos péchés et aussi pour nous ouvrir la porte sur toutes ces bénédictions. Nous ouvrir le chemin, toi qui dis « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tu nous ouvres le chemin vers toi, vers le royaume des cieux. Et ce matin, on veut regarder des promesses qui sont liées. On veut les apprendre. On veut aussi les voir devenir vivantes dans nos vies. Puis on veut, Seigneur, que tu nous instruises à la façon de vivre. Comment vivre selon les promesses que tu nous as faites. Pour ta gloire, par ta grâce, on te remet toutes choses. Amen, Seigneur Jésus. Alors, la première étant connaître les promesses. Ici-bas, le prince de ce monde a une grande influence sur nous. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas entrer en communion avec Dieu à cause de notre chute dans le jardin d'Éden. Il nous faut apprendre conscience de la perdition éternelle qui nous attend sans Jésus-Christ. Mais la Bible vient nous porter secours avec une promesse dans Actes 16, 31 qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelle belle promesse! Mais je veux vous encourager à apprendre pour mieux les connaître et pour pouvoir y avoir recours lorsque différentes situations se présentent. Allez-y, laissez-vous aller. Laissez libre cours à votre créativité. Je le sais parce que je visite certains de vos foyers, certaines de vos maisons, et il y en a qui manquent pas d'imagination pour mettre des versets. Il y en a qui l'ont brodé sur des coussins, d'autres qui en ont fait une couverture, d'autres qui ont des cadres sur les murs, d'autres qui l'écrivent au frigo, sur le frigo. J'avais une sœur qui s'en écrivait des nouveaux à chaque semaine puis qui les mettait dans son miroir le matin. Probablement que toutes les femmes, le matin, se regardent dans le miroir. Moi, j'ai pas besoin. J'ai pas de cheveux à placer. Ce serait pas une bonne place pour moi, le miroir. Mais il y a certaines personnes que pour qui le miroir, c'est un bon endroit. Et on manque pas d'imagination. Laissez les endroits les plus fréquentés être couverts de promesses, être couverts de versets bibliques, afin que ces promesses-là pénètrent vos cœurs. Faites-vous ce cadeau, c'est si beau. Plus les promesses seront des ancres dans vos vies, plus vous allez vous y fier. Plutôt que de vous laisser diriger par vos émotions. Mon frère Gilles Farley nous a parlé, il y a quelques semaines, des souffrances. Pas un sujet facile, mais il l'a fait avec brio. La vie du croyant, il nous en a parlé des souffrances dans la vie du croyant en quelques semaines. Il a même dit que nous serions mieux de nous préparer pour faire face à la souffrance. Je ne sais pas si son idée vient de lui-même ou si c'est parce qu'il l'avait lu dans le livre de Don Carson. Jusqu'à quand? Mais il nous en a parlé, puis il nous a dit que le livre de Don Carson rapportait « Il ne faut pas nous demander si nous allons subir de la souffrance sur cette terre, mais plutôt nous préparer, car cela est inévitable. La souffrance nous atteindra tous d'une façon ou d'une autre. » Autrement dit, ce n'est pas si la souffrance nous frappera, mais plutôt quand elle nous frappera. Cela devrait nous motiver à apprendre plus des promesses. J'ai remarqué que quand Jésus est tenté par l'ennemi, il répond immédiatement par des promesses. Relisons rapidement le passage de Matthieu 4, versets 3 et 5, où Jésus est tenté dans le désert. Le tentateur, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Après 40 jours dans le désert, à jeûner. Ça a dû être tentant pour Jésus. Il avait le pouvoir de le faire. Il pouvait prendre des pierres et les transformer en pain. Pour lui, ça aurait été facile. Mais plutôt, il s'appuie sur la parole de Dieu. Puis il dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est une promesse pour nous aussi, ça. On n'est pas appelé juste à vivre de nourriture et de constamment se nourrir pour fonctionner. Autrement dit, la parole de Dieu, elle a autant d'importance que la nourriture dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai de la difficulté à sauter un repas. J'ai faim. Est-ce que c'est cette faim-là des Écritures aussi? Si je saute une lecture, si je saute un temps avec le Seigneur Jésus, bien, la promesse de Dieu, c'est de dire, bien, si tu te nourris de ma parole, tu vas avoir autant de force ou tu vas être autant rassasié que par la nourriture. Le diable transporte Jésus jusque dans la ville sainte, puis il le place au haut du temple, puis il dit, jette-toi en bas! Mais Jésus lui dit, l'ennemi se sert des Écritures pour dire, jette-toi en bas. Il a dit qu'il mettrait des anges à ta disposition, puis ils vont te porter sur tes mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Fait que ça, c'est une promesse. L'ennemi est rusé, hein? Il se sert des Écritures pour dire que c'est écrit. Fait qu'il va le faire. Si tu te jettes en bas, là, il va envoyer des anges qui vont prendre soin de toi. Mais Jésus dit non, je veux pas tenter Dieu. Et même si mon Père a promis de me garder, je veux pas provoquer le Seigneur. Alors, il y a des promesses que nous-mêmes, on doit rechercher, puis qu'on doit mettre en application dans nos vies, mais jamais au détriment de Dieu. Jamais dire « Dieu est moins bon parce que sa promesse envers moi, qui est écrite dans le livre, elle ne s'accomplit pas. » Il y a quelque chose à comprendre dans ça. Il y a des leçons à tirer. Il faut réfléchir et s'attendre à Dieu plus que à nos émotions, nos sentiments. Ensuite, l'ennemi lui-même s'asseye en faisant une promesse, en disant « Si tu t'inclines devant moi, là, je vais te donner toutes les, les royaumes qui sont parce qu'ils m'ont été donnés. » Je ne suis pas convaincu que ça y a été donné. Peut-être que la domination pour un temps, mais il n'y a rien qui appartient vraiment à l'ennemi. Tout appartient à Dieu. Une occasion ici de nous rappeler que les promesses peuvent être priées. L'expression « à cause de mon nom » qu'on trouve dans les Écritures fait référence à l'action de Dieu, souvent motivée pour sa gloire et sa réputation, plutôt que par les mérites ou les actions des individus. On retrouve Moïse, Josué, David dans les psaumes qui disent à Dieu « Écoute, à cause de ton nom, à cause de ta réputation, tu as fait cette promesse-là, Seigneur. Comment tu vas agir aujourd'hui pour que ton nom ne soit pas terni? Comment tu vas agir aujourd'hui pour que ton nom ne soit pas diffamé? » Des fois, il perdait des batailles, puis Josué, il dit, « Là, Jéricho, tout le monde en a entendu parler qu'on les avait détruits, que le mur était tombé. Là, on arrive sur Haï, une petite ville. On se fait renverser à cause du péché d'un seul homme qui avait désobéi à Dieu. » Il faut s'approprier les promesses. Il faut vraiment chercher à les apprendre. Parce que c'est écrit, ça devient une promesse. Jésus cite ces promesses-là. Frères et sœurs, pour vivre selon les promesses, il faut les connaître. La seconde était de s'approprier les promesses. On a vu tantôt, il faut connaître les promesses, ensuite s'approprier les promesses. Moi, j'aime la belle promesse pour le chrétien dans Jean 14, 1 et 2. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. » Quelle belle promesse! Jésus nous dit qu'il y a de la place dans le royaume des cieux. Jésus nous dit qu'il y a beaucoup de place dans le royaume de Dieu. Ce qu'il y a dans cette promesse transforme la vie du chrétien. Le fait de bien connaître cette promesse nous rappelle qu'un jour, nous serons retirés complètement de ce monde. Croyez-vous aux paroles que le Seigneur nous donne ici? Il ne nous abandonne pas. Il est parti nous préparer une place. Cela va de pair avec la promesse dans Apocalypse 21:4. Où est-ce que la plupart des chrétiens soupirent après, surtout quand on souffre? On soupire après. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait va disparaître. Un gros amen, n'est-ce pas? Voilà notre espérance, libérée enfin de ce corps de chair qui dépérit. Dernièrement, Lynn et moi, on a fait refaire nos passeports. Vous connaissez certainement ce document qui a force de loi dans notre pays, mais aussi dans les pays du monde, pour nous identifier comme citoyens canadiens. Certains de vous ont des passeports de d'autres pays. Mon frère Robert Montgomery a sa citoyenneté américaine et sa citoyenneté canadienne. Mon frère Boniface Koudjounou a 3 passeports, 3 citoyennetés. Togo en Afrique, la France où il a fait ses études, et ensuite le beau Canada, le beau pays du Canada. Il a reçu ce passeport-là aussi. Alors, c'est merveilleux, mais ce document, il est temporaire, puisque notre vraie citoyenneté, elle est céleste. Ah oui, amen! Oui, c'est écrit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Imaginez, frères et sœurs, on a un passeport qui nous attend au ciel. Bien, on le possède déjà, ce passeport-là. Sauf que Post-Canada ne l'a pas livré. C'est le déjà pas encore expliqué par les théologiens. Comme cette destinée que nous avons en Christ, mais qui prendra son plein déploiement que dans notre mort charnelle. Notre passeport céleste aura comme inscription « Né de Dieu », par la volonté du Père, par le sang de son Fils Jésus-Christ. En ce jour-là s'appliquera Apocalypse 21:4 que nous avons lu plus tôt. Il va essuyer toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Oui, frères et sœurs, pour vivre selon les promesses, il faut nous les approprier. La Bible n'a pas été écrite pour décorer l'univers. Elle n'a pas été écrite pour être abandonnée sur une tablette. La Bible a été écrite pour la gloire du Créateur et sa famille. Nous, ses enfants, qui ne nous nourrissons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est qu'on a vu que pour apprécier, pour savourer, pour délecter dans les promesses, il faut les apprendre. On a vu ensuite qu'il fallait les approprier, ces promesses-là. Puis, si vous êtes né de nouveau, si vous avez mis votre confiance en Jésus à la croix, elles sont pour vous. Elles sont pour vous, ces promesses-là. Elles sont écrites pour que vous puissiez vous accrocher. On a lu tantôt comme des ancres. Hein? Vous pouvez vous y fier. Le troisième, c'est de laisser la promesse devenir espérance par la foi. Jean-Sébastien Roy, dans son message du 13 juillet, a dit quelque chose qu'il a répété 2 fois. Parce que ça avait toute une importance. Il dit, la foi, c'est l'espérance que nous avons dans la fidélité de Dieu. La foi, je vais le répéter 2 fois moi aussi, tiens. La foi, c'est l'espérance que nous avons dans la fidélité de Dieu. Nous croyons que Dieu ne ment pas. Nous croyons que les promesses sont faites par Dieu et, comme Jésus l'a dit, il n'y a pas un trait de la lettre, pas un iota qui va tomber sans, avant que je revienne, dit le Seigneur Jésus. C'est-tu un signe pour moi, ça, là? Non? On oublie ça? OK. C'est bon. Je pensais que ça voulait dire, hey, non, c'est comme pas tout à fait fini encore. Jean 14, 3 nous dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Êtes-vous déjà allé en quelque part sans vous préparer? Ou sans prendre de réservation? Je me rappelle, il y a quelques années, Lynn et moi, on s'en allait en vacances. Puis on avait toutes, parce que ma femme est super organisée, là, On avait tout réservé, les nuits d'hôtel, avec le parcours qu'on faisait. On disait, bon, tant de kilomètres parcourus cette journée-là, on arrête, on couche à telle place. Puis on se rendait pour Captcha pour aller chercher un office qui terminait un camp d'été avec l'armée. Avec, c'est pas l'armée, bon, c'est l'armée, là, mais c'est les cadets de l'armée. Alors, on avait tout planifié ça, puis on visitait des frères et sœurs en chemin. Puis là, arrivé le vendredi soir, la planification de ce voyage-là commençait le samedi soir. Mais arrivé le vendredi, on est en vacances, il est 5 heures, on est après souper, puis là, je dis, « Hey, on est prêt, là, toutes les valises sont faites, tout, pourquoi qu'on part pas ce soir? » C'est que ma femme a dit, « Ouais, mais on n'a pas de réservation nulle part. » Bah, pas grave. Et, « Tom, mais comment est-ce qu'il y a de monde qui part sur un... » Il appelle ça un « nowhere hein? ». Traduction, c'est un... On sait pas trop où on s'en va, mais on y va pareil. Alors, on décide qu'on part. Puis notre premier arrêt dans le chemin, le samedi, c'est on visite Noël et Marie Morissette qui habitent Granby à l'époque. Noël et Marie Morissette, pour ceux qui ne connaissent pas, Noël, c'est un évangéliste, puis il a même été ici à Gatineau comme pasteur pendant quelques années. Puis ensuite, ils ont été appelés ailleurs dans le ministère. Okay. Puis ils sont partis, puis à ce moment où on voulait les visiter, ils habitaient Granby. Fait que là, on part, puis moi, je suis tout content. T'sais, ma femme, elle accepte de partir... sans avoir d'ancrage, là, tu sais. On arrive à Granby. Il doit être à peu près 11 heures le soir, 10 heures, 11 heures. Et nous, on se met à visiter les motels, les hôtels, pour se rendre compte que ce fin de semaine-là, il y a la fin de semaine, le festival de la poutine, je sais bien. Puis là, il n'y a pas de chambre de libre. Puis là, plus on visite des hôtels, plus on se fait fermer la porte au nez. Puis là, on se retrouve comme un petit peu Joseph puis Marie qui cherchaient une place. Pas de place pour coucher. Heureusement, ma femme n'était pas enceinte. Alors, parce que là, j'aurais été à l'hôpital. Mais ça reste que on n'avait pas de réservation. Puis, comme on n'avait pas de réservation, bien, on n'a pas pu coucher. Ça a fini qu'on a couché dans notre voiture. Puis, là, vous savez, coucher dans une voiture, quand il fait chaud l'été, c'est super confortable. Si la fenêtre est ouverte, les moustiques rentrent. Si la fenêtre est fermée, bien, il faut que la voiture roule pour te donner un peu de fraîcheur. Et on va la climatiser, mais là, on ne voulait pas laisser la voiture rouler puis s'asphyxier non plus. Fait que ça fait une nuit très agréable. Le lendemain matin, c'est le lavage de dents puis se laver au lavabo du Petro-Canada, c'est le coin. Mais ça a fait une belle histoire. Aujourd'hui, on en rit. C'est... Mais voyez-vous, mon point ce matin, c'est que ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ils ont une réservation au ciel. Puis ils se feront pas dire « t'as pas d'affaires ici ». Parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ, mort à la croix pour tes péchés. Et il est important de bien comprendre cela. Il est important parce que vous ne voulez pas arriver au ciel puis vous faire dire « Non, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Cherche, écris comment déjà? » Non, ça ne fonctionne pas. Les promesses sont importants. Il nous montre la voie vers le ciel. Et les promesses du Seigneur Jésus, quand il dit qu'il va nous préparer une place, elles sont merveilleuses. Là, je viens de réaliser que je n'ai pas tourné les je ne vous ai pas fait suivre avec les promesses. Bon, c'est bon. Alors, un autre... belle image des promesses quand Jésus dit « Je vais vous préparer une place, puis je vais revenir, je reviendrai. » C'est celle du mariage. Ma femme assistait à un moment donné à une conférence qui était donnée par Ivy Pilon. Puis Ivy Pilon, elle avait étudié le mariage juif avec toutes les traditions qui étaient rattachées à ce à ça. Et elle a découvert que quand le mariage et la promesse de mariage et les fiançailles, c'est aussi important que la promesse de mariage. C'est aussi important que le mariage lui-même. En fait, on le voit dans les Écritures quand Joseph veut divorcer. C'est pas tout écrit « divorcer » dans toutes les traductions, mais j'ai vérifié, puis dans le grec, « divorcer »,« rompre »,« répudier ». Joseph veut répudier Marie de façon secrète parce qu'il attend qu'il apprend qu'elle est enceinte. Et il sait qu'il n'est pas le père. Alors, c'est un ange de Dieu qui intervient puis qui prévient Joseph. « Ne crains pas de prendre Marie. C'est une intervention divine qu'elle est enceinte. » Mais Joseph était quand même prêt à divorcer. Ça démontre l'importance de la promesse, cette promesse qu'il avait prise envers Marie de l'épouser. Et cette promesse-là, Joseph se propose de rompre, de faire un divorce secrètement. Le mot « rompre », utilisé en français, comme je l'ai dit, c'est synonyme. Mais en anglais, il y a bien des traductions qui utilisent « divorce ». Dans le dictionnaire grec, qui est la langue originale du Nouveau Testament, nous trouvons à côté de « rompre »,« divorce »,« répudier ». Je l'ai dit, ça. Les fiançailles constituent une promesse. J'ai dit ça aussi. Pour en revenir à la tradition juive, après la promesse de mariage, le futur époux quittait avec son père. C'est là que je voulais arriver. Le futur époux quittait avec son père parce qu'à l'époque, c'est probablement plus des terres agricoles, le futur époux quittait avec son père pour aller construire un ajout à la maison familiale. Puis, des fois, il y avait quand même une distance considérable entre l'endroit où la fiancée habitait et où le fiancé était en train de construire l'agrandissement pour recevoir cette nouvelle famille. Alors, le point que je veux faire ici, que je veux vous donner comme exemple, c'est que c'était pas le fiancé qui décidait quand il retournait son épouse. C'était son père qui disait, là, les travaux sont terminés. Là, ça va être le temps où tu vas pouvoir aller te marier puis ramener ton épouse à la maison. Quand je fais un parallèle avec Jésus, vous le savez, il dit, c'est pas moi qui va décider. En fait, les anges ne connaissent même pas le temps où je vais retourner chercher mon église, où je vais retourner chercher mon épouse. Parce que souvent dans les Écritures, l'épouse de Christ, c'est l'église. C'est pas moi qui va décider, c'est le Père, puis lui seul connaît le moment. Alors, le parallèle était quand même surprenant et intéressant de voir que la fiancée devait attendre le temps où son beau-père déciderait de leur mariage. La fiancée, toutefois, recevait des cadeaux de son fiancé pour dire « je t'oublie pas ». Tu sais, j'imagine qu'il a dû avoir des communications là, avec elle pour lui dire « inquiète-toi pas, je vais revenir te chercher ». Jésus ne fait-il pas la même chose? Les promesses ne sont-elles pas des cadeaux de Jésus pour nous dire « je reviens ». Bonjour, Louis-Jacob. Alors, je m'en ai justement à dire, j'invite les musiciens à s'avancer pour la louange. Comment vivre... Non, ça, je recommence. Ça veut dire que c'est pas ça de là. Voilà. Frères et sœurs, on vit dans un pays où coule le lait et le miel. Ce sont tous des cadeaux de Dieu, des bénédictions. C'est le Père qui décidait du retour et on attend impatiemment. Là, on veut être comme Abraham, on veut le faire patiemment. On attend que Jésus revienne. Il y a un cantique qui nous dit « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus ». Ce cantique dit aussi « Cette histoire est toujours nouvelle ». Redites-la souvent. Les promesses sont une ancre pour notre foi qui nous aide à vivre en nous appuyant sur les promesses à cause de la fidélité de Dieu. Les promesses doivent être apprises. Les promesses, on doit se les approprier. Elles sont pour nous. Et on doit laisser les promesses devenir notre espérance par la foi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on est courbé devant ton trône, on vient en toute humilité devant ta face. Comment on a à apprendre de toi, Seigneur? Mais on peut se fier que tu es l'ancre dans le royaume des cieux. Tu es celui auquel nous sommes attachés par ce lien d'amour. Et on veut vraiment, Seigneur, s'en remettre à toi, s'en remettre à tes promesses. On veut apprendre à les vivre pleinement, car elles sont pour nous. On veut apprendre à mettre foi dans ta fidélité. Continue de nous instruire et de nous construire, Seigneur, pour ta gloire, par ta grâce. Amen, Seigneur Jésus.